Don't you deserve a Medicare plan you can count on? Well, you can count on a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. Enjoy reliable coverage and low out-of-pocket costs with a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. And if you have a chronic condition like diabetes, chronic heart failure, or a cardiovascular disorder, you may qualify for a UnitedHealthcare Complete Care plan with plans that fit your life today and as your needs change tomorrow. Find out more about UnitedHealthcare plans at uhc.com/Medicare.
L'absence de George Rodenbach, enregistré pour LibriVox.org. L'absence. L'absence a fait son œuvre, et quand je l'ai revue, elle m'a regardé sans douleur ni remords, et j'ai cru la sentir, cette calme statue, s'asseoir sur le tombeau de mon bel amour mort. Et quand, pour la reprendre à des ressouvenances, j'ai voulu lui parler des bonheurs d'autrefois, son cœur fut comme un puits aux vagues résonances, où bientôt se perdit le frisson de ma voix. Fin du poème. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Allégorie de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Allégorie à Jules Valadon. Despotique, pesant, incolore, l'été, comme un roi fainéant, président un supplice, s'étire par l'ardeur blanche du ciel complice, et bâille. L'homme dort loin du travail quitté. L'alouette au matin, lasse, n'a pas chanté. Pas un nuage, pas un souffle, rien qui plisse ou ride cet azur implacablement lisse, où le silence bout dans l'immobilité. L'âpre engourdissement a gagné les cigales, et sur leur lit étroit de pierres inégales, des ruisseaux à moitié taris ne sautent plus. Une rotation incessante de moires lumineuses étend ses flux et ses reflux. Des guêpes, çà et là, volent, jaunes et noires. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
À Ninon, d'Alfred de Musset, enregistré pour LibriVox.org. Si je vous le disais pourtant, que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. C'est un mal sans pitié que vous plaignez vous-même. Peut-être cependant que vous m'en puniriez. Si je vous le disais, que 6 mois de silence cachent de longs tourments et des vœux insensés. Ninon, vous êtes fine, et votre insouciance se plaît comme une fée à deviner d'avance. Vous me répondriez peut-être, je le sais. Si je vous le disais, qu'une douce folie a fait de moi votre ombre et m'attache à vos pas. Un petit air de doute et de mélancolie, vous le savez, Ninon, vous rend bien plus jolie. Peut-être diriez-vous que vous n'y croyez pas. Si je vous le disais, que j'emporte dans l'âme jusqu'aux moindres mots de nos propos du soir. Un regard offensé, vous le savez, madame, change 2 yeux d'azur en 2 éclairs de flamme, vous me défendriez peut-être de vous voir. Si je vous le disais, que chaque nuit je veille, que chaque jour je pleure et je prie à genoux. Ninon, quand vous riez, vous savez qu'une abeille prendrait pour une fleur votre bouche vermeille. Si je vous le disais, peut-être en ririez-vous. Mais vous n'en saurez rien. Je viens, sans rien en dire, m'asseoir sous votre lampe et causer avec vous. Votre voix, je l'entends. Votre air, je le respire. Et vous pouvez douter, deviner et sourire. Vos yeux ne verront pas de quoi m'être moins doux. Je récolte en secret des fleurs mystérieuses. Le soir, derrière vous, j'écoute au piano chanter sur le clavier vos mains harmonieuses. Et dans les tourbillons de nos valses joyeuses, je vous sens dans mes bras, plié comme un roseau. La nuit, quand de si loin le monde nous sépare, quand je rentre chez moi pour tirer mes verrous, de mille souvenirs en jaloux je m'empare. Et là, seul devant Dieu, plein d'une joie avare, j'ouvre comme un trésor mon cœur tout plein de vous. J'aime, et je sais répondre avec indifférence. J'aime, et rien ne le dit. J'aime, et seul je le sais. Et mon secret m'est cher, et chère ma souffrance, et j'ai fait le serment d'aimer sans espérance, mais non pas sans bonheur. Je vous vois, c'est assez. Non, je n'étais pas née pour ce bonheur suprême de mourir dans vos bras et de vivre à vos pieds. Tout me le prouve, hélas, jusqu'à ma douleur même. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? Fin du poème, enregistré par Ezoa, en Belgique, en mai 2017. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Le chat et le miroir, de Jean-Pierre Claret de Florian. Enregistré pour LibriVox.org. Philosophe hardi, qui passez votre vie à vouloir expliquer ce qu'on n'explique pas, daignez écouter, je vous prie, ce trait du plus sage des chats. Sur une table de toilette, ce chat aperçut un miroir. Il y saute, regarde, et d'abord pense voir un de ses frères qui le guette. Notre chat veut le joindre, il se trouve arrêté. Surpris, il juge alors la glace transparente et passe de l'autre côté. Ne trouve rien, revient, et le chat se présente. Il réfléchit un peu, de peur que l'animal, tandis qu'il fait le tour, ne sorte sur le haut du miroir. Il se met à cheval. Deux pattes par ici, deux par là. De la sorte, partout, il pourra le saisir. Alors, croyant bien le tenir, doucement vers la glace, il incline la tête. Aperçoit une oreille, et puis deux. À l'instant, à droite, à gauche, il va jetant sa griffe qu'il tient toute prête. Mais il perd l'équilibre, il tombe et n'a rien pris. Alors, sans davantage attendre, sans chercher plus longtemps ce qu'il ne peut comprendre, il laisse le miroir et retourne au souris. Que m'importe, dit-il, de percer ce mystère? Une chose que notre esprit, après un long travail, n'entend ni ne saisit, ne nous est jamais nécessaire. Fin du poème. Enregistré par Linda Olsen-Feitak, Los Angeles. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La cigale et la fourmi, de Jean de La Fontaine. Enregistré pour LibriVox.org. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt des principales. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Fin du poème. Enregistré par Linda Olsen-Faitak, Los Angeles. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Corbeau de Edgar Allan Poe. Traduction de Stéphane Mallarmé. Enregistré pour LibriVox.org. Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m'apesantissais, faible et fatigué, sur main curieux et bizarre volume de savoir oublié, tandis que je dodelinais la tête, somnolent presque, soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Cela seul, et rien de plus. Ah, distinctement, je me souviens que c'était en le glacial décembre, et chaque tison, mourant isolé, ouvrageait son spectre sur le sol. Ardemment, je souhaitais le jour. Vainement, j'avais cherché d'emprunter à mes livres un sursis au chagrin de la Lénore perdue, de la rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore. De nom pour elle ici, non, jamais plus. Et de la soie l'incertain et triste bruissement en chaque rideau purpural me traversait, m'emplissait de fantastiques terreurs pas senties encore, si bien que, pour calmer le battement de mon cœur, je demeurais maintenant à répéter. Si quelque visiteur qui sollicite l'entrée à la porte de ma chambre, quelque visiteur qui sollicite l'entrée à la porte de ma chambre, c'est cela, et rien de plus. Mon âme devint subitement plus forte, et n'hésitant davantage, « Monsieur, dis-je, ou madame, j'implore véritablement votre pardon, mais le fait est que je somnolais, et vous vintes si doucement frapper, et si faiblement vous vintes heurter à la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûre de vous avoir entendu. Ici, j'ouvris grande la porte. Les ténèbres et rien de plus. Loin dans l'ombre regardant, je me tins longtemps à douter, m'étonner et craindre, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver encore. Mais le silence ne se rompit point. Et la quiétude ne donna de signe, et le seul mot qui se dit fut le mot chuchoté. « Lénore !» Je le chuchotai, et un écho murmura de retour le mot « Lénore !» Purement cela, et rien de plus. Rentrant dans la chambre, toute mon âme en feu, j'entendis bientôt un heurt, en quelque sorte plus fort qu'auparavant. Sûrement, dis-je, sûrement, c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons donc ce qu'il y a, et explorons ce mystère. Que mon cœur se calme un moment, et explore ce mystère. C'est le vent, et rien de plus. Au large, je poussai le volet, quand, avec mains enjouements et agitation d'ailes, entra un majestueux corbeau des cinq jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni n'hésita un instant, mais avec une mine de lord ou de lady, se percha au-dessus de la porte de ma chambre, se percha sur un buste de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre, se percha, siégea, et rien de plus. Alors, cet oiseau d'ébène, induisant ma triste imagination au sourire par le grave et sévère décorum de la contenance qu'il eut, « Quoique ta crête soit chue et rase, non, dis-je, tu n'es pas pour sûr un poltron, spectral, lugubre et ancien corbeau, errant loin du rivage de nuit. Dis-moi, quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de nuit ?» Et le corbeau dit « Jamais plus. » Je m'émerveillais fort d'entendre ce disgracieux volatile s'énoncer aussi clairement, quoique sa réponse n'eût que peu de sens et peu d'à propos. Car on ne peut s'empêcher de convenir que nul homme vivant n'eût encore l'heure de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou toute autre bête sur le buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, avec un nom tel que « Jamais plus ». Mais le corbeau, perché solitairement sur ce buste placide, parla ce seul mot comme si son âme, en ce seul mot, il la répandait. Je ne proférai donc rien de plus. Il n'agita donc pas de plume, jusqu'à ce que je fis à peine davantage que marmotter. D'autres amis déjà ont pris leur vol. Demain, il me laissera comme mes espérances déjà ont pris leur vol. Alors, l'oiseau dit, jamais plus. Tressaillant au calme rompu par une réplique si bien parlée, sans doute, dis-je, ce qu'il profère est tout son fond et son bagage, pris à quelque malheureux maître que l'impitoyable désastre suivit de près et de très près, suivi jusqu'à ce que ses chansons comportassent un unique refrain. Jusqu'à ce que les chants funèbres de son espérance comportassent le mélancolique refrain de « jamais, jamais plus ». Le corbeau, induisant toute ma triste âme encore au sourire, je roulai soudain un siège à coussin en face de l'oiseau et du buste et de la porte. Et m'enfonçant dans le velours, je me pris à enchaîner songerie à songerie, pensant à ce que cet augural oiseau de jadis, à ce que ce sombre, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau de jadis signifiait en croissant « jamais plus ». Cela, je m'assis occupé à le conjecturer, mais n'adressant pas une syllabe à l'oiseau dont les yeux de feu brûlaient, maintenant, au fond de mon sein, cela et plus encore, je m'assis pour le deviner, ma tête reposant à l'aise sur la housse de velours des coussins que dévorait la lumière de la lampe. Housse violette de velours, dévorée par la lumière de la lampe, que elle ne pressera plus. Ah! Jamais plus. L'air, me sembla-t-il, devint alors plus dense, parfumé selon un encensoir invisible balancé par les séraphins dont le pied, dans sa chute, tintait sur l'étoffe du parquet. « Misérable, m'écriai-je, ton Dieu t'a prêté, il t'a envoyé par ses anges le répit et le népenthèse dans ta mémoire de Lénore. Bois, oh bois ce bon népenthèse, et oublie cette Lénore perdue. » Et le corbeau dit « Jamais plus. » Prophète, dis-je, être de malheur, prophète, oui, oiseau ou démon, que si le tentateur t'envoya ou la tempête t'échoua vers ses bords, désolé et encore tout indompté, vers cette déserte terre enchantée, vers ce logis par l'horreur hanté, dis-moi, véritablement je t'implore, y a-t-il du baume en Judée? Dis-moi, je t'implore. » Le corbeau dit « Jamais plus. » « Prophète, dis-je, être de malheur. Prophète, oui, oiseau ou démon, par les cieux sur nous épars, et le Dieu que nous adorons tous deux. Dis à cette âme de chagrin chargée si, dans le distant Éden, elle doit embrasser une jeune fille sanctifiée que les anges nomment Lénore. Embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit, jamais plus. Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau ou malin esprit, hurlai-je en me tressant. Recule en la tempête le rivage, plus ton mien de nuit. Ne laisse pas une plume noire ici comme un gage du mensonge qu'a proféré ton âme. Laisse inviolé mon abandon. Quitte le buste au-dessus de ma porte. Ôte ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte. Le corbeau dit, jamais plus. Et le corbeau s'envoltait. Siège encore sur le buste pallide de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve. Et la lumière de la lampe, ruisselant sur lui, projette son ombre à terre. Et mon âme, de cette ombre qui gît flottante à terre, ne s'élèvera jamais plus. Fin du poème. Enregistré par Linda Olsen-Feitak, Los Angeles. Et cet enregistrement fait partie du domaine public. Le corbeau et le renard, de Jean de La Fontaine. Enregistré pour LibriVox.org. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage.
Hey, « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. »
À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit,
« Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Fin du poème. Enregistré par Linda Olsen-Feitak, Los Angeles. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Dénonciation de l'esprit des bois, de Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org. Dénonciation de l'esprit des bois. J'ai vu ton ami, j'ai vu ton ami, Mérante et Rosa. Vous n'étiez point trois. Fils, ils ont produit une épidémie de baisers parmi les nids de mon bois. Ils étaient contents, le diable m'emporte, tu n'étais point là. Je les regardais, jadis on trompait Jupin de la sorte, car parfois un dieu peut être un dadais. Moi, je suis très laid, j'ai l'épaule haute, mais bas. Quand je peux, je ris de bon cœur. Chacun a sa part. On plane, je saute. Vous êtes les beaux, je suis le moqueur. Quand le ciel charmant se mire à la source, quand les autres ont l'âme et le baiser, faire la grimace est une ressource. N'étant pas heureux, il faut s'amuser. Je dois t'avertir qu'un bois souvent couvre des détails piquants pour brantôme et grime, que les yeux sont faits pour qu'on les entr'ouvre, fils, et qu'une absence est un intérim. Un cœur parfois trompe et se désabonne. Qui veille à raison. Dieu, ce grand bréguet, fit la confiance, et, la trouvant bonne, l'améliora par un peu de guet. Tu serais marmotte ou l'un des quarante, que tu ne pourrais dormir mieux que ça, pendant que Rosa sourit à Mérante, pendant que Mérante embrasse Rosa. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Dernier adieu d'Auguste Lacossade, enregistré pour LibriVox.org. Vous que j'ai tant aimé, ô vous dont l'œil m'évite, si le hasard encore me plaçait sur vos pas, tremblante, à mes regards ne fuyez pas si vite, de moi ne vous détournez pas. Ne vous détournez pas, dans sa noble innocence, mon cœur s'étonne et souffre au trouble où je vous vois. Si d'un trop haut amour la femme un jour s'offense, je l'ignorais. Pardonnez-moi. Ne vous détournez pas, votre trouble me blesse. Un souvenir des fleurs ne vous saurait lier. Croyez à mon orgueil autant qu'à ma faiblesse. J'aimais, mais je veux oublier. Nul remords entre nous, nul secret, nul mystère. De ma douleur jamais vous n'aurez à souffrir. Celui qui si longtemps sut aimer et se taire, se taira. Dût-il en mourir? L'amour a ses bonheurs. Hélas, je les ignore. L'amour a ses tourments. Je les ai trop connus. Mais je le sens au mal poignant qui me dévore. Bientôt, je ne souffrirai plus. Que de jours l'âme en proie à la mélancolie, me rappelant combien le sort te fut amer, ô Tasse, ainsi que toi j'enchaînai ma folie dans un silence ardent et fier. Est-ce ma faute à moi, dans une heure d'ivresse, si, vos regards troublant ma frêle volonté, votre main dans ma main, défaillant de tendresse, mon cœur sur ma lèvre est monté? Oubliez-le, ce mot, l'énigme de ma vie, votre instinct curieux, ô femme, est satisfait. À mon tour j'oublierai, cher et mortel ami, le mal qui par vous me fut fait. Allez en paix, vivez, le monde vous réclame. En riant, foulez-y mon idéal cherché. Oh, vous saurez un jour au vide de votre âme sur quel cœur vous avez marché. Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en janvier 2017. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'enfant et le papillon, de V. Armand, enregistré pour LibriVox.org. Un jour, c'était le temps de la saison nouvelle. Un enfant, échappé de l'aile maternelle, errait dans un jardin, où de charmantes fleurs étalaient à ses yeux leurs brillantes couleurs, quand il vit, par hasard, venir une capture. C'était un papillon qui cherchait aventure. Souriant et léger, au gré de ses désirs, il va, revient, retourne au souffle des zéphyrs. Puis il revient encore et choisit une rose. Mais c'était la plus belle et la plus fraîche éclose. Là, déployant son aile aux rayons du soleil, il brille d'un éclat plus pur et plus vermeil. Charmé de ses attraits, sans perdre une seconde, l'enfant qui, pour l'avoir, donnerait tout un monde, le front brillant de joie et le cœur palpitant, vers le rosier en fleurs s'avance doucement. Se voyant assez près, non sans beaucoup de peine, de peur de l'effrayer, retenant son haleine, son bras crut le saisir. Mais celui-ci soudain s'enfuit, et le marmot, en retirant sa main, sentit son doigt blessé d'une épine cruelle. Vers sa mère il accourt. « Mon enfant, lui dit-elle, ne verse point de pleurs, hélas, mais souviens-toi, que de la volupté c'est la fidèle image, souriant pour tromper, laissant sur son passage bien des douleurs. Plus tard, fuis le plaisir, crois-moi. » Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en mai 2017. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Jalousie de Pierre Corneille, enregistré pour LibriVox.org. N'aimez plus tant, Phyllis, à vous voir adorer. Le plus ardent amour n'a pas grande durée. les nœuds les plus serrés sont le plus tôt rompus. À force d'aimer trop, souvent on n'aime plus, et ces liens si forts ont des lois si sévères que toutes leurs douceurs en deviennent amères. Je sais qu'il vous est doux d'asservir tous nos soins, mais qui se donne entier n'en exige pas moins. Sans réserve il se rend, sans réserve il se livre, hors de votre présence il doute s'il peut vivre. Mais il veut l'appareil, et son attachement prend compte de chaque heure et de chaque moment. C'est un esclave fier qui veut régler son maître, un censeur complaisant qui cherche à trop connaître, un tyran déguisé qui s'attache à vos pas, un dangereux Argus qui voit ce qui n'est pas. Sans cesse il importune, et sans cesse il assiège, importun par devoir, fâcheux par privilège, ardent à vous servir jusqu'à vous en lasser, mais au reste, un peu tendre et facile à blesser. Le plus léger chagrin d'une humeur inégale, le moindre égarement d'un mauvais intervalle, un sourire par mégarde à ses yeux dérobés, un coup d'œil par hasard sur un autre tombé, le plus faible dehors de cette complaisance que se permet pour tous la même indifférence, tout cela fait pour lui de grands crimes d'État. Et plus l'amour est fort, plus il est délicat. Vous avez vu, Phyllis, comme il brise sa chaîne sitôt qu'auprès de vous quelque chose le gêne, et comme vos bontés ne sont qu'un faible appui contre un murmure sourd qui s'épand jusqu'à lui. Que ce soit vérité, que ce soit calomnie, pour vous voir en coupable, il suffit qu'on le dit. Et lorsqu'une imposture a quelque fondement sur un peu d'imprudence ou sur trop d'enjouement, tout ce qu'il sait de vous et de votre innocence n'ose le révolter contre cette apparence et souffre qu'elle expose à cent fausses clartés votre humeur sociable et vos civilités. Sa raison au-dedans vous fait en vain justice. Sa raison au-dehors respecte son caprice. La peur de sembler dupe aux yeux de quelque fou étouffe cette voix qui parle trop pour vous. La part qu'il prend sur lui de votre renommée forme un sombre dépit de vous avoir aimé. Et comme il n'est plus temps d'en faire un désaveu, il fait gloire partout d'éteindre un si beau feu. Du moins, s'il ne l'éteint, il l'empêche de luire et brave le pouvoir qu'il ne saurait détruire. Voilà ce que produit le don de trop charmer. Pour garder vos amants, faites-vous moins aimer. Un amour médiocre est souvent plus traitable. Mais pourriez-vous, Phyllis, vous rendre moins aimable? Pensez-y, je vous prie, et n'oubliez jamais, quand on vous aimera, que l'amour est doux, mais... Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en février 2017. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public.
Jeune fille, l'amour, c'est d'abord un miroir. De Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org. Jeune fille, l'amour, c'est d'abord un miroir. Jeune fille, l'amour, c'est d'abord un miroir, où la femme coquette et belle aime à se voir, et gaie ou rêveuse se penche, puis comme la vertu candile à votre cœur, il en chasse le mal et les vices moqueurs, et vous fait l'âme pure et blanche. Puis on descend un peu, le pied vous glisse, alors c'est un abîme, en vain la main s'attache au bord. On s'en va dans l'eau qui tournoie. L'amour est charmant, pur et mortel. N'y crois pas. Tel enfant par un fleuve attiré pas à pas. S'émire, s'y lave et s'y noie. Fin de poème. Enregistré par Montse González. Cet enregistrement fait partie du domaine public.